Vous écoutez, on lit pour vous.
Une véritable inclusion numérique est nécessaire. Un texte d'Étienne Dutille paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue. ILGA World présentait récemment Accessing Connection, une collection de données et de témoignages montrant comment les disparités dans l'accès au numérique affectent les personnes LGBTI à travers le monde et sont en soi une fracture numérique. La disparité dans l'accès à la technologie numérique, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les téléphones intelligents et les tablettes, et à l'Internet, a un impact sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, LGBT+, de manière spécifique, considère l'organisation internationale ILGA World. Il est essentiel d'écouter leurs histoires pour construire une inclusion numérique significative pour tous. L'organisation internationale a lancé, le 20 février, Accessing Connection, une recherche pionnière sur l'interaction complexe entre les disparités dans l'accès au numérique et les expériences uniques des individus et des communautés d'orientation sexuelle, d'identité et d'expression de genre et de caractéristiques sexuelles diverses. Les chercheurs ont cartographié les complexités de la fracture numérique du point de vue du genre, de la race et du statut migratoire, des régions géographiques, des contextes urbains et ruraux, de l'indigénéité et du handicap, entre autres. Mais jusqu'à présent, il n'existait que peu ou pas d'études sur les obstacles qu'elles représentent pour les personnes LGBT+. Rédigée pour ILGA World par The Engine Room, une organisation à but non lucratif qui soutient la société civile dans son utilisation de la technologie, Accessing Connection comble cette lacune en s'appuyant sur des données et des témoignages de défenseurs des droits humains de toutes les régions du monde. Les personnes LGBT+ savent que l'espace en ligne a permis de créer une communauté, de lancer des mouvements et de fournir des outils pour se faire entendre, y compris dans des environnements très hostiles, déclare Daniel Paletta, responsable de la communication chez ILGA World et responsable de la rédaction du rapport. Cependant, ces possibilités ne sont pas accessibles à tous de la même manière. L'accès aux ressources numériques dépend de la capacité à surmonter des barrières basées sur des aspects croisés de leurs identités. Les histoires racontées dans ce rapport montrent que dans le monde entier, il n'existe pas de récit unique sur la façon dont les personnes LGBT+ accèdent à la connexion. Si le coût des données, la localisation et le fait de disposer d'appareils et d'infrastructures adaptées ont un impact sur la capacité de chacun à être en ligne, de nombreuses personnes LGBT+ sont confrontées au fardeau de la précarité économique en raison des difficultés à trouver un emploi, du harcèlement, de la stigmatisation sociétale et d'une législation hostile. Ces facteurs ont une incidence sur leur capacité à acheter des appareils et à s'offrir une couverture Internet adéquate. Souvent, les plateformes en ligne ne sont pas conçues pour tout le monde. Les personnes LGBT+ handicapées sont confrontées à des obstacles à l'accès en raison d'un manque de pratiques inclusives. La prédominance de quelques langues, dont l'anglais, par rapport à d'autres, ajoutée au filtrage actif des contenus LGBT+, fait en sorte qu'il est très difficile pour nos communautés d'utiliser pleinement les sites, d'accéder à l'information et de l'utiliser pour défendre leurs droits. Craignant pour leur sécurité, les personnes LGBT+ doivent négocier entre l'anonymat et la visibilité. Tout comme pour la violence en ligne, les victimes de harcèlement en ligne peuvent avoir du mal à trouver des protections juridiques, en particulier lorsque leur identité et leur expérience sont criminalisées ou carrément rejetées. Les politiques d'exclusion poussent les travailleurs du sexe LGBT+ hors ligne dans des situations de plus en plus dangereuses. La surveillance et les limitations à la liberté d'expression constituent des obstacles supplémentaires pour les défenseurs des droits humains et les organisations LGBT+, qui manquent souvent de ressources et de financements suffisants pour adopter des pratiques de sécurité numérique ou améliorer leur culture numérique. La connectivité en ligne a transformé notre travail en tant qu'organisation LGBT+ et notre présence en tant qu'individu, confirme Julia Hert, directrice exécutive des LGA World. Mais elle crée aussi un cercle vicieux. Les personnes les plus vulnérables et les plus démunies sur le plan économique sont aussi les plus difficiles à atteindre et à soutenir. Elles sont en même temps les plus touchées par les méfaits de la censure, du blocage et du harcèlement en ligne, ce qui les prive d'occasions cruciales de défendre leurs droits et de construire une communauté. Malgré les obstacles à l'inclusion numérique, les organisations LGBT+ de base continuent de mettre en œuvre des moyens ingénieux pour servir leur communauté, y compris les moins connectées d'entre elles. Les histoires que nous avons rassemblées dans ce rapport montrent notre incroyable résilience, ont déclaré Luz Helena Aranda et Tuisina Imania Brown, co-secrétaires générales d'ILGA World. Nous sommes en première ligne pour faire progresser l'inclusion numérique pour tous, que ce soit en promouvant l'accès rural aux services Internet et la formation à la sécurité numérique, en nous mobilisant pour lutter contre une législation hostile, en traduisant des documents relatifs aux questions LGBT+ dans les langues locales, ou en exploitant la sécurité relative des espaces en ligne pour mener à bien des travaux ou rassembler la communauté. Nous savons qu'être en ligne n'est pas la seule façon de servir nos populations, conclut Aranda et Brown. Et pourtant, garantir une connectivité significative et sûre pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, en particulier pour ceux dont la fracture numérique contribue à faire taire la voix. Tendre la main à ceux qui sont systématiquement marginalisés, par la fracture numérique ou autrement, reste au cœur de la promesse de ne laisser personne de côté. Info ilga.org. C'était « Une véritable inclusion numérique est nécessaire », un texte d'Étienne Dutil paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue.
Le système de santé n'a jamais été aussi mal. Un texte de Mario Girard, paru le 19 mai 2024 dans La Presse. C'était en 1982. Un danseur de ballet qui rentrait d'un séjour à New York est entré dans le cabinet d'un médecin montréalais. Inquiet, le jeune artiste a dit « Je pense avoir la maladie des Américains ». Le destin de Régent Thomas venait tout à coup de prendre une nouvelle direction. Il y a très exactement 40 ans, en 1984, Régent Thomas a créé avec ses collègues Sylvie Ratel, Alain Campbell et Michel Marchand un centre destiné aux maladies transmissibles sexuellement. Situé dans le village gay, qui n'était alors constitué que d'une poignée de bars, la clinique s'est d'abord nommée l'annexe avant de devenir l'actuelle. On nous disait que ça ne marcherait pas, me raconte Régent Thomas. Le premier jour, les chaises de la salle d'attente n'étaient pas arrivées. Dès l'ouverture, la pièce était pleine d'hommes et de femmes qui attendaient debout. Certains patients sont arrivés traumatisés. Je me souviens d'un homme qui m'a raconté que son médecin avait ouvert la Bible à la page de Sodome et Gomorre pour lui faire la morale. En plus de l'herpès, de la gonorrhée et de la chlamydia, une nouvelle réalité s'abat sur l'équipe de l'actuelle. Les premiers tests de dépistage du sida sont arrivés à la fin de 1984, dit Régent Thomas. On ne savait pas quoi faire avec ça. Les premiers patients atteints du sida que rencontre Régent Thomas sont infectés depuis quelques années. Ils avaient une espérance de vie de 6 mois à 2 ans. À cela se sont ajoutés les problèmes d'homophobie et de sérophobie du milieu hospitalier. on a dû se créer un réseau de médecins, d'infectiologues, d'hématologues et de pneumologues qui étaient plus ouverts. On oublie que la discrimination à l'égard des personnes atteintes du sida fut énorme dans les années 1980 et 1990. Souviens-toi, c'était la maladie des 4 H. Homosexuels, haïtiens, hémophiles et héroïnomanes. Au cours de ces 40 années, Régent Thomas a annoncé de mauvaises nouvelles à des centaines de gens. Sans doute qu'une lourdeur se fait sentir parfois sur ses épaules, je lui fais remarquer qu'il me raconte son parcours en souriant. « Tu sais, pour chaque patient à qui j'ai annoncé une mauvaise nouvelle, j'aurais pu pleurer. Chaque cas est une histoire de cinéma. Je pense à cette Africaine qui est venue au Québec dans l'espoir de faire venir sa fille. Elle pensait avoir enfin trouvé le bonheur, et le ciel lui est tombé dessus. Je lui ai dit qu'elle avait le sida. Il y a aussi l'histoire incroyable de cette femme de 72 ans qui est venue le voir un jour. Elle avait une petite enveloppe entre les mains. Elle me l'a remise en disant qu'elle était référée par son médecin. Je l'ai ouverte et c'était écrit « VIH positif ». Elle ne le savait pas. Son mari était mort de cause inconnue. Elle est décédée d'un cancer du sein à 92 ans. Elle est devenue une sorte de grand-mère pour moi. Augmentation des cas. Coup sur coup, 2 rapports ont fait récemment état d'une augmentation de cas de VIH chez nous. D'abord, celui de la Direction régionale de santé publique de Montréal, publié en décembre 2023, qui montre que le nombre de cas a bondi de 120% dans la métropole en 2022. Puis, en février dernier, une étude de la Fondation canadienne de recherche sur le sida, CANFAR, qui indique que 1833 nouveaux cas se sont déclarés au pays, soit une augmentation de près de 25% par rapport à l'année précédente. Les médias n'en parlent presque plus, nous dit Régent Thomas. Il est loin le temps où Jeannette Bertrand consacrait des émissions entières à cela. Tu sais à quand remonte la dernière grande campagne de prévention contre les ITS? À Marie-Soleil Touga. La coupable est la banalisation qui entoure maintenant cette maladie. On répète beaucoup qu'on ne meurt plus du sida, mais attention, ça demeure une maladie chronique et grave. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré un jeune patient de 25 ans. Il prenait la PrEP, prophylaxie pré-exposition, et il a cessé de la prendre. Il vient de commencer une trithérapie. Il vit avec ses parents qui ne savent pas qu'il est homosexuel. Nous sommes en 2024. Si vous voulez faire sortir Régent Thomas de ses gonds, parlez-lui de la formation que reçoivent les jeunes médecins aujourd'hui sur les ITS et le VIH. Ils ne savent rien de l'histoire du sida. Pour ce qui est des jeunes, ils font leur éducation sexuelle avec des films porno. J'ai annoncé à un jeune de 19 ans qu'il était VIH et il ne savait pas de quoi je parlais. Pour certains, c'est une maladie de mononcle. Ce jeune avait demandé la PrEP à son médecin de Saint-Sauveur qui lui a dit d'aller à Montréal pour ça. Il s'est contaminé entre-temps. Malgré les avancées, il n'y a toujours pas de vaccin contre le sida. Il existe un traitement préventif et toujours pas de traitement curatif. Les patients, ce qu'ils veulent, c'est guérir. Quand je leur annonce qu'ils ont le VIH, je leur dis que la stigmatisation sera associée à cela. C'est encore le cas. Vous écoutez « Le système de santé n'a jamais été aussi mal », un texte de Mario Girard paru le 19 mai 2024 dans la presse. Et l'espoir. Est-ce que Régent Thomas rêve à un traitement ou à un vaccin? A-t-il espoir que cela se produira un jour? L'espoir que j'ai est que la recherche se poursuive. Lorsque la trithérapie est arrivée, j'ai eu peur que la recherche s'arrête. L'étude actuelle la plus intéressante est la prise par injection d'anticorps monoclonal tous les 6 mois. Pour le moment, ce traitement existe tous les 2 mois. Et il s'en vient à titre préventif, en PrEP. Le dépistage reste encore le nerf de la guerre. Alors quand Régent Thomas entend que le gouvernement fédéral met fin au programme d'autotest, il monte au créneau. Pour éradiquer le sida, dit-il, il faudrait que 95% des gens qui sont séropositifs le sachent. Et après ça, il faudrait que 95% des gens soient sous traitement et 95% soient indétectables. On a tous les outils nécessaires pour atteindre ça. L'occasion était belle d'aborder avec ce médecin d'expérience l'énième virage qu'on tente de faire prendre à notre système de santé. Le système n'a jamais été aussi mal que maintenant. La bureaucratie est en train de nous rendre fous. Les listes d'attente me désespèrent. J'ai vu un patient de 73 ans aujourd'hui. Il a une fissure anale. Il est incontinent. Son chirurgien lui a dit qu'il allait le voir dans 2 ans. On n'a pas prévu le vieillissement de la population, mais voyons donc. Je n'ai jamais vu autant de détresse dans mon bureau. Le cristalmet fait des ravages. La situation est désespérante. Le 9 mai 2024, Régent Thomas a reçu le prix Rayonnement et Engagement de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ. Après toutes ces années, j'avais oublié qu'il est d'abord un médecin de famille. L'actuelle est l'une des rares cliniques où la prise en charge des personnes vivant avec le VIH est faite par des omnipraticiens. Je suis très fier de ça. Cela dit, Régent Thomas revendique haut et fort le titre de médecin de santé communautaire. Pour celui qui a toujours voulu être docteur, c'est ça qui l'a guidé. Je viens d'un milieu peu favorisé, mais ma mère m'a toujours dit que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas intelligent. Sa grand-mère a toutefois failli le faire dévier de son objectif. Elle m'a dit un jour qu'elle aimerait que je devienne prêtre et que si je l'acceptais, elle allait me laisser son héritage. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas un sou, dit-il en riant. Depuis quelque temps, beaucoup de gens s'inquiètent de savoir si Régent Thomas partira bientôt à la retraite. Je crois qu'ils peuvent cesser de nourrir cette crainte. J'ai commencé ma carrière en faisant des accouchements à Rimouski. Je suis devenu un spécialiste du sida à Montréal et là, mes patients ont décidé qu'ils ne mourraient pas. Donc, je redeviens un médecin de famille qui s'occupe aussi de cholestérol et d'hypertension. Ce n'est pas merveilleux? Régent Thomas ne parle jamais de sa vie privée. J'ose une question plus personnelle. Quand on consacre sa vie, comme il l'a fait depuis 40 ans à la médecine, peut-on trouver un équilibre avec l'aspect sentimental? Il prend une respiration. C'est clair que cette lutte a mis de côté tout un pan de ma vie. Mais ce n'est pas grave. Je fais le plus beau métier du monde. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi Régent Thomas arrive à parler de son quotidien avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. C'était « Le système de santé n'a jamais été aussi mal », un texte de Mario Girard paru le 19 mai 2024 dans La Presse.
Le grand retour des boulettes en conserve, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 10 avril 2024 dans La Presse. Les ventes de ragoûts de boulettes cordon bleu connaissent une solide croissance depuis la pandémie. Pour ses 90 ans, la marque montréalaise part à la conquête de plus jeunes fourchettes, ici et ailleurs. On ne s'y perd pas, mais on voit qu'il y a eu un bon coup de pinceau bleu. Même si vous n'avez pas acheté de produits cordon bleu depuis la nuit des temps, vous allez percevoir la cure de jeunesse, juste à voir la présentation des produits. Plus moderne, très classique. Peu d'entreprises peuvent bâtir une nouvelle image sur une histoire riche de 90 ans, indique Patricia Saint-Aubin, vice-présidente vente et marketing d'Aliments Ouimet, Cordon Bleu. L'entreprise montréalaise regroupe de nombreux produits. En plus des sauces et des ragoûts, la marque a mis la main sur le Paris pâté et les fèves Clark en 1983 et 1990. Ces aliments ont quelques points en commun. Ils sont tous en conserve, font partie du patrimoine alimentaire québécois et sont abordables, ce qui a favorisé la croissance des ventes en cette période inflationniste. Toutes nos catégories sont en croissance, précise Patricia Saint-Aubin, année après année. Les augmentations des ventes sont significatives. Une hausse de 107% durant les 5 dernières années pour le ragoût de boulette. Le Paris pâté n'est pas en reste, avec 26% de hausse. Les Bin Clark, un bond de 34% depuis 5 ans. Étonnant, n'est-ce pas? Pas du tout, répond le professeur émérite de marketing à HEC Montréal, Jacques Nantel, qui est membre du conseil d'administration d'Aliments Ouimet Cordon Bleu. Il explique que la marque mise notamment sur le réconfort, la facilité de préparation et l'abordabilité, ce que cherchent les consommateurs plus que jamais. L'évolution de nos habitudes d'achat en alimentation vers des enseignes à bas prix confirme cet appétit pour des aliments moins dispendieux, détaille Jacques Nantel. Les ragoûts Cordon Bleu sont offerts partout. Certains produits de la marque se trouvent d'ailleurs chez Dollarama. Ça s'insère dans cette filière-là, explique le professeur, qui ajoute que l'entreprise a énormément mis d'efforts sur l'innovation dans ses marques depuis 5 ans. Besoin de réconfort. Patricia Saint-Aubin va dans le même sens. Le côté réconfort permet de comprendre la croissance des ventes des fèves au lard, pâtés et autres produits en conserve. Le ragoût, c'est sûr que c'est un produit qui est accessible, dit-elle, précisant que dans un contexte d'inflation, les aliments qui offrent un bon rapport coût-protéines sont populaires. Un exemple, la conserve de fèves au goût de sirop d'érable Clark est en promotion et se détaille 99 sous chez IGA cette semaine pour 398 millilitres. C'est un prix difficile à battre. Autre point qui a joué en faveur de la marque Cordon Bleu, le contexte pandémique a fait naître un certain besoin de réconfort qui s'est fait sentir dans les allées des supermarchés. C'est réconfortant, c'est savoureux et c'est là depuis toujours. Les gens ont grandi avec Cordon Bleu, rappelle Patricia Saint-Aubin. Et ces gens qui connaissent la marque depuis longtemps et l'aiment sont extrêmement loyaux, affirme-t-elle. Le défi est maintenant d'aller chercher une nouvelle clientèle pour certains classiques. On a 2 catégories de produits qui s'adressent à des consommateurs différents, précise Patricia Saint-Aubin. Les sauces, plus chères, rejoignent une clientèle plus jeune et plus large, avec des produits comme la sauce 3 poivres, qui n'est pas un aliment de base. Les acheteurs de ragoût, eux, sont souvent plus vieux. En modernisant l'image de la marque, on veut plaire aux plus jeunes. Un argument écologique pourrait y contribuer, précise Jacques Nantel. La conserve, contrairement par exemple à un emballage de plastique, dit-il, se recycle ad infinitum. La conserve en croissance. Je suis convaincue qu'on s'en va progressivement vers le retour de la conserve, explique le professeur de marketing. Différentes études d'observateurs du marché confirment cette tendance. Le marché mondial des aliments en conserve devrait croître de 3,78% par année au moins jusqu'en 2027, d'après des prévisions d'Industry Research Biz. Selon Jacques Nantel, si certaines personnes lèvent le nez aujourd'hui sur du ragoût de boulettes en conserve, dans quelques années, on pourrait bien voir Cordon Bleu devenir une marque qui revient à la mode, portée par ce désir d'avoir un bon rapport qualité-prix et d'acheter un produit plus durable. Il y a de plus en plus de conscientisation que la conserve est quelque chose de remarquable, dit-il, à la fois sur le plan environnemental et sur le plan de la préservation de la nourriture, ce qui permet aux fabricants d'utiliser moins d'agents de conservation, une autre qualité chère à une plus jeune clientèle. Le changement sur l'emballage pour Cordon Bleu s'accompagne d'une campagne publicitaire d'envergure. Les campagnes sont destinées à un public plus jeune, plus diversifié, et misent beaucoup sur le fait de rassurer, explique Jacques Nantel. On mise sur l'utilisation des panneaux réclames extérieurs. Essentiellement, on dit que vous êtes pris dans le trafic, que ça prend 2 heures pour retourner chez vous, mais 5 minutes pour préparer le souper. Dans les prochains mois, Cordon Bleu veut aussi faire une percée vers d'autres marchés, les États-Unis notamment, et lancer de nouveaux produits au Québec aussi, en profitant de cette croissance. Mais sans supprimer les classiques. Les années COVID dans le milieu du canage ont été des années spectaculaires en termes de vente, confie Patricia Saint-Aubin. On ne le cachera pas. Je pense qu'on nous a découvert durant cette période-là. La COVID nous a propulsés où on est maintenant. Alors on va se renouveler et on va continuer. On va se moderniser. Et on va garder notre pertinence culturelle. Aliment Oui Mais Cordon Bleu en bref. Fondation 1933 dans le Mile End à Montréal, dans la résidence de Jean-René Oui Mais. Nombre d'employés, 125. Siège social, Anjou, 22%. Les sauces Cordon Bleu sont en croissance de 22% depuis un an. Les ragoûts et boulettes sont en croissance de 21%. C'était Le grand retour des boulettes en conserve, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 10 avril 2024 dans la presse.